Dictionnaire de la sagesse ancienne, avec David Goulois et Dominique Abdelnour. Cette émission présente les concepts fondamentaux de la sagesse ancienne, sagesse éternelle qui comprend les traditions initiatiques du passé et aussi les enseignements ésotériques modernes. Pour aller plus loin ou pour réécouter des émissions, vous pouvez vous rendre sur le site de David Goulois, www.sagesseancienne.com. Bonjour à tous, bonjour David.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Au cours de cette émission, nous allons parler de l'ésotérisme, du vrai ésotérisme, parce qu'on va voir que l'ésotérisme, quelquefois, dans certaines idées, on se dit que c'est quelque chose qui est fumeux, qui est incompréhensible, qui n'a ni queue ni tête, et avec des histoires telles que la fin du monde qui devait arriver en 2012, n'est-ce pas? Donc on va voir que l'ésotérisme, le vrai, c'est pas du tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus scientifique, et que les ésotéristes, les vrais, ont toujours dit que l'année 2012 serait une année telle que les autres, avec un printemps, un été, un automne, un hiver, et que l'année 2013 serait une continuité. Alors David, qu'est-ce que c'est que l'ésotérisme, le vrai ésotérisme? Qu'est-ce que ça veut dire?
Peut-être l'étymologie éso renvoie à quelque chose de caché, d'intérieur, qui n'est pas démontré, contrairement à exo. On trouve ça dans extérieur, par exemple, hein, ce qui est exotérique. Donc c'est une théorie extérieure, c'est une théorie disponible pour tous, qui appartient au commun des mortels, hein, qui n'est pas cachée par définition, qui est acceptée, intégrée. Et l'ésotérisme, c'est l'étude de tout ce qui est caché. Caché, tout ce qui est causal, on pourrait dire, ou archétypal.
Oui, c'est pas simplement caché, ça veut dire que ce sont des vraies causes, un vrai savoir, une vraie connaissance profonde qui sous-tend l'univers, son évolution.
Voilà, donc qui dit cause, dit principe. Et c'est pas quelque chose de moderne, de nouveau. Alors il y a un ésotérisme moderne qui commence avec Madame Blavatsky, Alice Bailey, Elinor Ulrich, Benjamin Creme. Pour moi, c'est des grandes figures de l'ésotérisme moderne. Mais il y a un ésotérisme antique très ancien et... dans la philosophie antique, pour moi, elle est éminemment ésotérique, surtout chez des auteurs comme Pythagore, Platon ou tous les auteurs, même beaucoup d'auteurs pré-socratiques, qui recherchaient arché, un principe ou des principes qui sous-tendraient le monde extérieur, le monde sensible, comme dirait Platon. Et donc, c'est la recherche des principes, de tout ce qui est causal, archétypal, ce qui est à l'origine de ce que l'on perçoit, de ce que l'on voit, de ce que l'on vit, est exotérique, ce qui est connu et ce qui appartient au domaine des événements, donc du physique, mais aussi le domaine des sentiments et le domaine de la pensée, c'est considéré comme exotérique.
Quand on dit on cherche les grands principes qui sous-tendent, c'est aussi un peu ce que fait la science, parce que la science, elle essaye vraiment de trouver quelles sont les grandes lois qui régissent l'univers, enfin l'aspect matériel de l'univers.
Quelque part, elle fait une recherche ésotérique, elle fait une recherche du caché, Mais la science, pour l'instant, n'a pas démontré autre existence que le plan physique. Elle essaie simplement d'expliquer les forces qui agissent dedans, alors que l'ésotériste va dire que ces forces sont simplement la manifestation tangible de forces archétypales plus grandes. On pourrait parler d'idées, au terme platonicien. Pour Platon, les idées, c'était des nombres. Les nombres, ce sont des rayons, ce sont des énergies. Et l'ésotérisme, on pourrait dire, c'est l'étude des énergies archétypales, des premières énergies, qui agissent à différents niveaux jusqu'au plan physique et qui vont se démontrer par les forces qu'étudient les astrophysiciens, par exemple. Mais ils ne sont pas de purs ésotéristes, même s'ils ont une démarche, on pourrait dire, comme des occultistes, à essayer de comprendre le monde des forces. Et au fur et à mesure, les métaphysiciens rentrent dans ce qu'ils ont critiqué pendant longtemps, à savoir l'éther, à savoir des principes qui étaient en vogue. Même si le mot éther est reconnu, ça a maintenant d'autres noms. Mais en fait, au fur et à mesure, ils pénètrent dans le monde caché, dans le monde des forces et des énergies. Donc, dans l'ésotérisme, pour comprendre ces principes, il y a forcément une métaphysique. Ça veut dire une physique, la physique de ce qui est méta, de ce qui est au-delà, au-dessus, de ce qui est transcendant. Donc, on essaye de comprendre les principes originels avant de comprendre les phénomènes. C'est-à-dire, pour reprendre encore Platon, qui est pour moi un des pères de l'ésotérisme en Occident, avec Pythagore et d'autres, on part des principes, c'est-à-dire du général, pour aller après au particulier. Comme si on suivait l'involution. Ça, c'est une méthode ésotérique. On se place comme si on était Dieu, et on essaye de comprendre comment ces principes, au fur et à mesure, vont s'enchaîner les uns dans les autres, comment un principe va en donner un autre, etc. Et comment, à travers une théorie des émanations, comment on arrive jusqu'à ce que l'on voit en tant que phénomène. Le contraire de phénomène, c'est les noumènes. Donc, on étudierait les noumènes.
C'est-à-dire qu'on part du haut pour expliquer le bas.
Voilà. Et le bas intègre pas seulement le plan physique, je le répète, mais une matière plus subtile, qui est la matière émotionnelle, les sentiments, l'imaginaire, ça fait partie du monde matériel, même si c'est plus subtil, et même la pensée est considérée comme, par l'ésotériste, différent de l'idée. Hein, on mélange un peu tout, mais les idées sont plus archétypales que la pensée.
Tu peux donner des exemples d'idées comme par exemple la liberté, le...
Voilà l'idée d'infini, par exemple. Alors après, on peut penser, on peut essayer de.
C'est des concepts.
C'est des concepts abstraits mais des réalités tangibles qui ne. On peut se demander pourquoi on a l'idée d'infini en nous, par exemple, pourquoi on a l'idée de la Trinité, par exemple, qui est présente dans différentes traditions. Donc le triangle, on associe ça au chiffre 3. Voilà, comment on peut avoir ces idées archétypales? Bah, l'ésotériste dit qu'elles viennent de principes qui préexistent en amont de l'humanité. C'est un principe qu'on retrouve, des idées qu'on
Donc
retrouve chez Platon.
l'humanité, dans tout ce qu'elle fait comme recherche philosophique, métaphysique, scientifique ou psychologique, arrive à redécouvrir finalement des idées, des principes qui sont préexistants.
Ouais, c'est ce que disait Platon en parlant des facultés de l'âme. Il suivait son maître Socrate qui faisait accoucher les esprits avec la maïeutique. Eh bien, faire accoucher l'esprit, c'est permettre à l'âme de contempler de nouveau le monde des archétypes, le monde des idées, le monde des causes. Et quelque part, l'ésotérisme traite de cela, comprend les choses en termes de principes, de lois. Et après, essaye de voir comment ces lois se manifestent sous forme d'énergie et comment donc elles vont être à l'origine de grands courants de pensée, par exemple. De grands idéaux ou même de formes de règne, toute forme de manifestation répond à des énergies. Donc on parle de rayons. C'est un terme qui revient dans l'ésotérisme moderne, mais c'est pas une des nouvelles du tout, les rayons. Avant, si on était kabbaliste, on aurait parlé des sept séphirotes. Des sept mondes, des sept hiérarchies d'êtres. On a partout le chiffre 7 qui revient constamment dans nombre de traditions, ce sont les sept chiffres. de 1 à 7, et puis 8 et 9 sont des chiffres de synthèse plutôt, hein, et 8, 9, 10 symbolisent la Trinité si l'on veut. Mais on a, pour ça qu'on a 7 ou 10, c'est l'idée qu'il y a donc toujours 7 forces principes, 7 énergies qui deviennent des forces après, 7 énergies principales, et que cette énergie, en amour, ont comme source 3 énergies, une triade, une trinité, et cette trinité se fonde dans l'un. L'un suprême dans quelque chose d'ineffable, un absolu. En gros, voilà, j'ai un peu résumé la métaphysique, occulte.
Quand tu dis d'un Dieu, puisqu'on est en train de parler, enfin, ce principe éternel, immuable, dont tu parles, c'est une sorte de Dieu qui est immanent et transcendant.
À la fois. Alors, il y a justement, c'est un monisme, L'ésotérisme, pardon, et l'ésotériste lui-même est moniste, c'est-à-dire qu'il conçoit un premier principe dans l'un comme dans le multiple, l'idée que tout reste un, même si on va vers une forme de différenciation. J'ai parlé du 1 qui devient 3, qui devient 7, et puis ces 7 énergies se combinent pour former les différents univers, puis après les différentes planètes, etc., les règnes et autres, mais tout reste un. Et donc c'est comme tu le dis un monisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de c'est pas comme les monothéismes qui sont créationnistes. Dans les monothéismes, c'est pas du monisme en fait, c'est du monothéisme, c'est un seul Dieu qui crée l'univers. C'est pas une pensée profondément ésotérique, on pourrait dire. Dans l'ésotérisme, il n'y a pas de création, il y a des émanations.
Alors, est-ce que tu peux préciser quelle est la différence entre une émanation et une création? Est-ce que la création, c'est quelque chose, c'est Dieu qui reste à l'extérieur et qui regarde sa création? Quelle est
Voilà,
la
il y a une
différence?
dualité entre le créateur et ses créatures qui font partie de la création. Par exemple, vous prenez un mystique musulman, Al-Hallaj, qui disait qu'il était la vérité, il a proclamé qu'il était Allah, la vérité, ben, il s'est fait martyriser, le pauvre vieux. Parce que lui, il était moniste, et il pensait qu'il était Dieu, il était Allah. Et si on considère que Allah ou Dieu, peu importe, Yahvé ou autre, est vraiment la somme de tout, donc on est une partie de son corps. Et on a comme ça des Giordano Bruno qui s'est fait brûler en place publique, c'était un ésotériste, et parce qu'il affirmait que Dieu était immanent et que c'était lui-même dans sa création et qu'il était infini. Et bien pour toutes ces idées-là, on n'a plus besoin d'un Christ particulier. Donc voilà, il a été brûlé, mis sur le bûcher en 1600. Donc il y a eu plein de cas d'ésotéristes qui ont affirmé un monisme qui dérangeait les religions existantes, qui étaient créationnistes, qui partaient du point de vue qu'on était inférieur, qu'une image, qu'on n'était pas pleinement divin en quelque sorte et qu'on était né dans le péché. Donc ça, c'est pas une idée ésotérique, c'est une idée religieuse au sens dualiste du terme. Bien que dans les religions, il y a eu toujours des monistes. Donc il n'y a pas de séparation entre Dieu transcendant et Dieu immanent. Il n'y a aucune rupture.
Et ce monisme va même jusqu'à dire que esprit et matière ne font qu'un.
Oui, d'un point de vue ou un autre, Madame Blavatsky, je citais cette grande ésotériste du 19e siècle, fin 19e, disait que l'esprit c'était la matière conçue dans son stade le plus haut et que la matière c'était l'esprit conçu dans son stade le plus bas. Et il y a simplement une sorte de dégradation, sans jugement de valeur, d'émanation successive, d'abaissement d'énergie, de fréquence vibratoire, si on voulait parler en langage un peu plus scientifique entre guillemets, et il y a aucune rupture, mais il y a simplement une sorte d'échelle comme ça d'énergie du macrocosme vers le microcosme, et également un retour du microcosme vers le macrocosme, mais il n'y a jamais de rupture. Et il y a non seulement pas de rupture dans la création, mais il n'y a pas de rupture non plus entre la création et le monde non créé, enfin l'espace archétypal. Il y a jamais de rupture. Et ça, c'est, je crois que c'est une pensée qu'on retrouve dans les philosophies, dans les religions, même dans les mythologies, quand on les comprend comme cela, c'est une pensée en soi ésotérique. Et on a classé, nous, beaucoup les philosophies ou les religions en disant que certaines étaient idéalistes, c'est-à-dire qui étaient tournées vers le monde des idées, des archétypes, et d'autres qui étaient naturalistes, qui concevaient qu'il y avait simplement la nature et qu'on était immergé dedans, et qu'il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas d'arrière-monde, il n'y avait pas tout ça. Et ben, dans l'ésotérisme, on considère que c'est simplement deux points de vue d'une même réalité. C'est pour ça que c'est un monisme qui inclut l'idéalisme, Dieu transcendant, et le naturalisme, Dieu immanent. Il n'y a pas de rupture. Donc s'il n'y a pas de rupture, c'est qu'une seule vie, c'est le premier principe de la doctrine secrète de Madame Blavatsky.
Tu peux nous le redire ?
Il y a donc qu'une seule vie, il n'y a pas de différence entre l'immanence, la transcendance, tout est un. Même le pluriel, même le multiple, c'est simplement une émanation du un, et que tout reste uni.
C'est ça, et le un sous-tend tout et unit tout.
Voilà, c'est le
point. C'est-à-dire qu'on n'unit pas différentes parties, c'est ces différentes parties en fait qui ne sont... Elles ne sont pas vraiment différentes. Il y a des aspects qui se différencient, mais le corpus commun est complètement uni.
Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui crée autre chose et qui, avec un lien de subordination, avec une certaine dualité. Alors des fois, il y a une dualité mitigée ou alors complète. Non, tout est un. C'est comme, je crois que l'émanation, on peut peut-être la comprendre si. Dans le fait de transpirer, par exemple, dans le fait d'émaner, on émane quelque chose, on émane des odeurs, c'est quelque chose qui, on émane du liquide, on émane des souffles, quelque chose qui sort de nous. Et c'est pas quelque chose qui est séparé de nous, qu'on a créé. Ça sort de nous, c'était en nous et ça sort de nous. On a cette idée avec une cellule qui va se scinder et donner deux cellules. Mais c'est toujours la même cellule, mais qui semble donner deux. Et puis après, ça donne trois, ça donne quatre. On peut imaginer comme ça les principes qui se subdivisent.
Alors de même, on a dit esprit et matière ne font qu'un, et de même on a une conscience universelle, c'est-à-dire que par exemple pour les humains, toutes nos consciences finalement ne sont qu'une seule conscience.
Voilà, si on part du premier principe, alors le premier principe c'est la vie, on va appeler ça comme ça, la vie, la puissance de vie, la volonté, le pouvoir, tout ça c'est des termes synonymes, c'est ce qui donne vie à tout. Ensuite il y a une sorte de, comment on pourrait dire, de substrat, qui va donner l'espace, et dans cet espace, il y a, c'est ce qu'on appelle la dyade, en fait. Hein. D'abord, c'est la monade, la vie, puis il y a une dyade, deux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de conscience-substance. Il y a une substance spatiale et une conscience, et les deux sont complètement liés. Et ça, c'est le deuxième principe que l'on trouve dans beaucoup de philosophies antiques, qu'on trouve dans la doctrine secrète de Madame Blavatsky. C'est une sorte de... ça va devenir après l'âme du monde, mais c'est d'abord une sorte de principe plastique, médiateur, qui va permettre toutes les opérations possibles. C'est une sorte de... on pourrait représenter ça comme comme l'eau, par exemple. Hein. L'eau, comme si on pouvait dessiner, ou alors le sable, on pouvait dessiner des choses dessus, on peut lui donner des formes. Et bien, ce principe, c'est cette dyade, sorte de substance, c'est-à-dire de matière incorporelle, complètement mêlée à la conscience, à... Et donc, si on dit que la conscience est une, c'est parce que l'espace est un. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun recoin de l'espace où il n'y a pas une forme de conscience. Ce qu'on appelle aussi le panpsychisme, l'idée qu'il y a du psychisme partout. Pan, c'est tout. C'est qu'il y a une conscience partout à un niveau ou à un autre. Tout ça, ça serait le principe de la dyade. Et pour organiser structurer cette dyade, il y a une triade. Il y a un intellect universel qui est une sorte de démiurge, de mental créateur, qui va prendre quelque part ce principe, cette substance et qui va lui donner plein de formes. C'est une sorte d'artisan, de démiurge. Et là, on rentre dans l'idée du Dieu créateur. Oui. Donc, on voit que d'abord il y a un absolu, puis il y a une monade, une dyade, une triade, et que le troisième terme, le troisième Dieu, ou le quatrième, enfin, si on compte l'absolu, il arrive tardivement. Alors que dans la Bible, si on prend la Bible, on est dans du créationnisme tout de suite parce que Dieu, il crée le ciel et la terre. Donc on est déjà dans le Dieu créateur. Et on n'est pas dans les principes plus subtils qu'on trouve dans diverses philosophies.
Est-ce qu'on peut revenir aux auteurs modernes qui ont décrit l'ésotérisme, ou peut-être à dire quelles étaient les grandes sources de l'ésotérisme dans le passé, dans les traditions?
Alors, les auteurs modernes, moi, je les ai cités tout à l'heure, il y a Madame Blavatsky, surtout 1875-1891, date de sa mort. Là, elle crée la théosophie et c'est la première pierre à l'édifice de l'ésotérisme moderne. Elle va influencer énormément de personnes. Il y a Alice Bailey qui va beaucoup reprendre la doctrine secrète et développer le thème notamment des rayons. Il y a aussi Elena Horitch, il y a Benjamin Crème qui lui et touche plus à l'émergence des maîtres de sagesse, mais qui reprend qui dit lui-même que ses sources sont toujours Madame Blavatsky, Alice Bailey. Ça, c'est l'ésotérisme moderne.
Alors, on peut dire déjà, quand on lit ces auteurs, c'est que c'est une approche extrêmement ardue, scientifique, cohérente.
Alors scientifique, faut se méfier quand
Bah,
on dit scientifique. Si c'est scientifique dans le sens où c'est mental, c'est intellectuel, c'est logique, oui, mais c'est pas la science est forcément en aval par rapport à l'ésotérisme, parce que la science a besoin de temps pour démontrer, et la science est toujours en retard quelque part par rapport à l'ésotérisme, parce que l'ésotérisme parle des causes et la science étudie les effets en essayant de comprendre après les causes. Donc c'est une démarche différente, complémentaire. Mais scientifique dans le sens où elle est
Rigueur, rigueur.
rigoureuse, c'est très rigoureux. C'est une philosophie qui est très rigoureuse. Alors on peut penser qu'il y a plein d'ésotérismes et qui sont opposés. Eh bien non, c'est ce qu'a montré Madame Blavatsky, et moi je ne crois pas non plus. Il y a simplement des façons de percevoir et d'expliquer ces mêmes phénomènes, ces mêmes principes différents, mais on retrouve toujours des équivalences et des principes communs. Donc il y a une forme de philosophie ésotérique archétypale qui serait exprimée. Elle se serait exprimée à travers donc ces ésotéristes modernes, mais aussi à travers des principes scientifiques et des grands philosophes qui ont aussi découvert ces principes-là, à travers des grands religieux, et ça remonte jusque dans la philosophie antique. Et la philosophie antique elle-même puise ses sources dans l'Orient. Si on prend la philosophie grecque, qui est majeure pour l'Occident, Pythagore, Thalès, Empédocle, tous ces grands philosophes, Platon, sont tous allés en Égypte. Certains sont même allés au Proche-Orient et même jusqu'en Inde. Et pour les Grecs savaient que la source du savoir était en Égypte et la faisaient remonter aux Chaldéens et aux Indiens. Donc il y a l'idée, en tout cas pour les Indo-Européens, que même la source de l'ésotérisme trouve ses racines en Inde. Et en Asie, il y a aussi la Chine, qui est un autre berceau très important, qui a développé une autre forme d'ésotérisme. Et puis on a aussi les peuples amérindiens qui ont aussi développé leur propre ésotérisme. Mais on retrouve toujours des principes communs parce que les idées sont les mêmes, mais exprimées différemment. On va parler de, pour la Chine, on va présenter, par exemple, on va prendre un système comme le Yiking, et on va présenter ça avec des traits pleins, des traits continus, on va expliquer des principes qu'on va retrouver dans la Kabbale, ou qu'on va retrouver dans le Samkhya indien, dans la doctrine des nombres qu'on retrouve chez Pythagore et chez Platon. Mais voilà, il y a plusieurs façons d'exprimer les mêmes idées. Parce que les idées sont éternelles, parce que c'est des principes qui préexistent à l'homme, préexistent avant même l'apparition de l'homme.
Thank you. Dans cette deuxième partie de l'émission consacrée à l'ésotérisme, nous allons essayer de définir l'ésotérisme en disant ce qu'il n'est pas. Cela peut aider. Alors, qu'est-ce qu'il n'est pas ? On a vu que c'est un corpus de connaissances profondes, de principes, hein, qui sont cachés et qui petit à petit sont transmis à l'humanité pour qu'elle les intègre, elle les comprenne. Alors, qu'est-ce que n'est pas l'ésotérisme ?
Alors, l'ésotérisme est maintenant largement confondu avec le mouvement New Age, une sorte de nouveau mouvement spirituel qui trouve ses racines dans les mouvements hippies des années 60, qui eux-mêmes ont été pas mal inspirés par tous les mouvements évangéliques, enfin, ils ont beaucoup, beaucoup repris d'idées, de la liberté, de trouver Dieu par soi-même. Ça, c'est des notions très protestantes, quelque part. C'est pour ça que c'est né aux USA, notamment, hein, avec par-dessus des idées propres aux années 60-70. Mais il y a quand même ce fond-là. Et on peut remonter à tous les anciens cultes des médiums. Tout ce qui touche aux oracles, aux devineresses, aux prophétesses, aux chamans, aux médiums. Ça remonte à cette tradition-là, mais c'est pas la même tradition que la tradition de l'ésotérisme. Et je dirais que dans les temps anciens, c'était quelque chose de. Il y a toujours eu des oracles, par exemple, hein, des médiums, mais c'était propre à cette époque et c'était probablement nécessaire parce que on avait des gens qui étaient capables de lire l'avenir, d'annoncer des choses, de révéler des choses, mais par le biais de. Alors des songes, il y avait l'usage de drogue, il y avait parfois même des techniques de respiration et autres, mais ça c'est pas lié à la tradition ésotérique, et je pense que maintenant c'est complètement dépassé. C'est que l'humanité est suffisamment mentale, et ces méthodes qu'on trouve maintenant chez les médiums, les channels, sont en fait ataviques, c'est des choses très anciennes, et qui n'ont rien à voir avec un développement spirituel. On pense que c'est très spirituel d'être médium, ce sont des dons, etc. Mais c'est simplement quelque chose que l'on recouvre, c'est une capacité latente qui devrait être endormie, qui est liée à notre corps émotionnel, à notre corps imaginaire, et imaginal on pourrait dire, qui nous permet de capter ce qu'il y a dans l'inconscient collectif ordinaire. Et c'est pourquoi les informations sont jamais d'un ordre très, très élevé, et qu'elles sont amalgamées à toutes sortes d'imaginaires et de croyances et d'idées déformées, et c'est une sous-culture en fait qui assimile des grandes données ésotériques. Par exemple, le concept de nouvel âge, à la base, c'est un concept d'Alice Bailey. L'idée qu'on rentre dans un nouveau cycle, d'un point de vue astronomique comme astrologique, on rentre dans l'ère du Verseau, donc il y a des énergies, et des nouvelles énergies, donc une nouvelle culture qui va se créer, comme ça s'est fait il y a 2000 ans, et même avant. Eh bien, ce concept est transformé dans le concept de Nouvel Âge, ou New Age en anglais, et on a un syncrétisme, on a un mélange de toutes sortes de choses, qui parfois n'ont rien à voir entre elles, et avec des anciennes traditions qui sont elles-mêmes déformées, et reprises et actualisées, c'est une sorte de bouillie comme ça, de mélange, mais c'est pas l'ésotérisme.
Oui, c'est-à-dire qu'on reprend des phrases à droite à gauche, qu'on mélange pour faire une espèce de rêve, de fantasme qui devient plus ou moins un rêve collectif.
On va confondre par exemple les hauts états méditatifs, qu'on appelle le samadhi, qui sont liés à la tradition du Raja Yoga, avec des états médiumniques. Ça n'a rien à voir. C'est une antithèse. Il y en a un qui est... Donc le samadhi, c'est un état méditatif prolongé, soutenu, très difficile à atteindre, et qui demande une grande tension mentale et spirituelle, alors que la médiumnité, c'est tout le contraire. C'est une passivité absolue. C'est le fait de se vider, c'est de se rendre psychiquement sensible aux forces qu'on appelle astrales, aux forces qui sont liées au plan émotionnel et qui est un plan qu'humanité. Mais tous les concepts sont repris comme ça, amalgamés, et peu compris, et on arrive aussi à des choses fâcheuses, à des interprétations fondamentalistes. De la même façon qu'on a des fondamentalistes religieux, on va avoir une forme de fondamentalisme New Age. On a eu l'exemple avec 2012.
La fin du monde qui devait arriver.
Alors que les Mayas n'ont jamais dit ça.
Oui, en plus on invente, on transforme.
On devait tous mourir, on devait passer à je sais pas quoi, une autre dimension, blablabli, blablabla. Et en fait,
On prend n'importe quel concept et hop, on invente voilà. Et ça fait une fumée.
C'est le monde de l'imaginaire. Et c'est malheureusement amalgamé avec l'ésotérisme. Alors je ne dis pas que dans les temps anciens, il n'y avait pas un caractère sacré aux médiums, mais les médiums étaient des gens très particuliers qu'on préparait, qui restaient vierges, végétariens, isolés, qui est une discipline drastique, et à une époque aussi où le monde psychique n'était pas perturbé non plus, bruyant comme le nôtre. Parce que tout ça affecte les courants psychiques, et donc toutes ces conditions ne sont pas réunies, et ça fait que les médiums sont en fait tout simplement des antennes des formes pensées qui courent, qui vagabondent sur ce plan-là.
Oui, c'est pour ça qu'ils ne sont pas forcément en lien avec quelque chose de réel qui va se passer. Ils captent des formes pensées qui n'ont...
Des imaginaires.
C'est l'imaginaire, ouais.
Mais il y a aussi un autre problème, c'est que... on arrive à des concepts qui deviennent complètement dénaturés, des concepts hautement philosophiques, métaphysiques, et qui sont complètement, qui étaient déjà parfois dénaturés, comme, je sais pas, moi je crois pas du tout, par exemple, à Saint Augustin, lorsqu'il parlait des âmes élues, prédestinées. Ça, c'est quelque chose, c'est un mirage religieux, très chrétien, qu'on retrouve beaucoup. Je pense que les New Age sont des anciens chrétiens, un peu fondamentaliste, je dirais. Enfin, chrétien, pas seulement chrétien d'ailleurs, mais des anciens religieux fondamentalistes. Et ils ont une interprétation justement fondamentaliste.
Ils ont un grand idéal tout de même, on peut pas nier que l'idéal...
Il y a beaucoup d'aspiration,
oui. Oui, l'idéal, c'est aussi une qualité humaine.
C'est une qualité qui doit être justement précieusement conservée et protégée de tous les excès qu'on peut trouver... justement à ce stade de l'évolution où au début c'est notre idéal, notre désir d'un mieux-être, de quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus vrai, etc., qui nous pousse à évoluer. Mais ça ne doit pas se faire au détriment du mental. Et le mental, avec l'étude et la méditation, la concentration, toutes les ascèses qui accompagnaient l'ésotérisme, permet justement un juste développement de la sensibilité et du mental.
Donc, on peut dire que le New Age, donc c'est il y a quelque chose qui est pas construit, qui est un petit peu du domaine du rêve. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce dualisme bien mal avec l'enfer éternel,
voilà, des notions comme ça. On retrouve des concepts qu'on avait trouvé dans les religions populaires exotériques. L'idée que voilà, si on est dans une perspective dualiste, et ben à ce moment-là tout est dualité. Il y a l'ombre, il y a la lumière, le bien, le mal, ceux qui vont être sauvés, ceux qui vont être damnés éternellement. On arrive et on va même aussi cliver la connaissance comme ça. On va prendre en psychologie Jung et on va l'opposer à Freud en disant que Freud c'est pas bien et Jung c'est bien. On va prendre Newton et on va dire bah lui c'est n'importe quoi, ça vaut rien et tout alléluia pour la physique quantique. Et on a comme ça des points de vue qui sont très très binaires et au final qui sont inintelligents parce que en fait c'est pas comme ça que la culture se développe. Ce sont tout simplement une évolution, une perspective où des auteurs s'intègrent et se réfutent, mais c'est une évolution de la pensée. Et on n'a pas ça, on a des ruptures et on a des positions dualistes et clivantes.
Jugement. Alors, est-ce qu'il y a aussi beaucoup de notions d'évolution personnelle qui sont assez égoïstes finalement? Je m'occupe de moi, de comment je vais aller mieux, très, très centré sur soi-même.
Oui, la voie des œuvres a été quelque peu écartée, alors que c'était une voie. La voie des œuvres, c'est la voie du service, hein. C'est le don, c'est la complémentaire de la mystique. Quelque part, hein. La mystique, c'est le travail sur soi, on pourrait dire maintenant en termes modernes, mais c'est la méditation, hein, à la base. C'est l'ascèse dans un lieu recueilli, dans un lieu retiré où on est recueilli, c'est l'union vers Dieu. Mais cette union devait avoir pour conséquence d'offrir un service, c'est-à-dire on invoque et ce qui est évoqué devait être servir. Devait être utilisé pour le bien de la communauté, du vivant. Et ben ça, au fur et à mesure, voilà, c'est perdu, c'est retiré, C'est aussi une pensée qu'on trouve chez les protestants, c'est qu'on va être sauvé par la grâce seule de Dieu. Et qu'il n'y a rien à faire parce que Dieu, il a déjà choisi ses élus. Donc on voit un peu des... Je ne veux pas tirer sur le protestantisme parce qu'il a apporté plein de choses très très bien aussi, hein. L'idée qu'on n'avait pas besoin d'hiérarchie ecclésiastique et qu'on pouvait se connecter à Dieu directement, ça c'est une idée très forte. Mais il y a aussi ce problème-là qu'on trouve beaucoup dans les milieux New Age, très égoïste ma foi, très centré sur son propre développement, avec cette idée que le monde est mal, les politiciens tous des salauds et qu'il n'y a pas besoin et qu'il faut pas même participer au monde parce qu'en plus il va être détruit, il va mourir et qu'on va être sauvé. Donc en fait, quelque part, ça peut aller très très loin.
Bah
Ça peut être dangereux.
c'est assez destructeur parce que ça exploite, ça développe les peurs, l'inertie et puis l'émotionnel
Voilà.
finalement.
Alors que l'ésotérisme, il y a toujours eu, même si je reprends Platon, il voulait créer une société idéale, hein. Il y a toujours, même si on prend Bouddha, il a tenté une forme de réforme des castes quelque part. En tout cas, il est allé au-delà des castes. Il y a un discours politique chez Jésus. Il y a toujours eu chez les grands sages un engagement social. Les pythagoriciens étaient engagés politiquement. Donc en fait, c'est complètement contraire à ce qui est le véritable ésotérisme. Et on retrouve ça chez les francs-maçons, qui sont pour moi des ésotéristes à la base, qui ont toujours, dans les loges, par leurs travaux, fait avancer la société. Eh bien, c'est ce que devrait faire l'ésotérisme. Alors que le New Age est quelque chose comme ça, d'une sorte de... En fait, c'est un ancien âge, c'est un groupe de personnes encore, pour moi, branchées sur l'ancien âge. On retrouve aussi... Alors, je parlais des anciens médiums qui étaient aussi coupés du monde, hein, avant, hein. Mais on trouve aussi un groupe qu'on confond avec les ésotéristes, c'est tout ce qui est spiritualisme. Les spirites. Ceux qui recherchent les perceptions, les contacts avec les défunts, c'est un peu les ancêtres des New Age, on pourrait dire, hein. Les ancêtres modernes, mais il y a ce contact avec l'au-delà, parler avec des
Ben, c'est
entités,
bien un
etc.
contact avec ce qui est caché, tout de même.
Avec le monde astral, oui.
Ouais.
Mais c'est pas considéré comme des contacts élevés, et ça devrait être en fait sujet à... Le spiritisme, je pense, a été créé, a été, s'est développé. Pour essayer de comprendre l'au-delà. Et ça devrait être en fait une discipline scientifique et pas un jeu, quoi. Hein. C'est-à-dire essayer de prouver qu'il y a une survivance de l'âme, qu'il y a un contact au moins avec des défunts ou tout au moins avec une source d'information. Voilà, ça devrait être l'objet de sciences paranormales ou psychophysiques. Alors que malheureusement, ça a été dévoyé et on utilise ça pour parler avec les morts, en fait, pour avoir des messages et ses ancêtres
Et
des
souvent,
New Age.
on arrive à inventer des messages, alors.
Voilà. Mais dans l'ésotérisme, la recherche des pouvoirs psychiques, des messages, tout ça n'est pas du tout mise à l'honneur, c'est même décrié, c'est considéré comme un contact inférieur. Et les véritables ésotéristes, on pourrait dire, c'est des Raja Yogis, ce sont ceux qui suivent une voie mentale de méditation, non dévotionnelle. Alors, pour la dévotion, s'il faut suivre une voie mystique, mais la voie ésotérique en tant que telle n'est pas une voie dévotionnelle, c'est une voie où on s'unit à sa propre divinité intérieure par une pratique de concentration mentale soutenue, et il n'y a pas de recherche de contact inférieur avec les mondes astraux. Ça ne fait pas partie du but de l'ésotérisme. Donc il y a une ascèse dans l'ésotérisme. On a parlé au début de la gnose, c'est-à-dire de la métaphysique, du savoir, de l'étude des principes et autres. On a parlé du service. C'est le complément de l'aspect méditatif. Et c'est l'aspect mystique, on pourrait dire, la dimension mystique de l'ésotérisme. C'est une mystique, on a dit, liée à la méditation mentale. Donc il y a une forme de concentration et de recherche de fusion, en fait, avec l'intellect supérieur et avec le monde de l'âme. On trouve ça aussi, encore une fois, chez Platon, chez les néoplatoniciens. On trouve ça bien sûr en Inde avec la tradition du Raja Yoga qu'on confond avec le Hatha Yoga, ça n'a rien à voir. Le Raja Yoga, c'est un yoga mental.
Tandis que le Hatha Yoga, c'est le yoga du corps, alors.
Voilà, qui peut donner justement des états médiumniques et des facultés de type médiumnique. C'est simple. Dans les écoles de mystère, les écoles d'entraînement à l'initiation, il y en a eu en Grèce, mais il y a eu des écoles équivalentes à Babylone et
En
même en
Égypte.
Inde, en Égypte et autres, on n'acceptait pas les médiums. Tous ceux qui avaient des capacités médiumniques ne remplissaient pas les prérequis, les critères. Ils avaient développé, pour faire image dans le corps, ils avaient développé leur plexus solaire. Et on a un centre psychique que l'on partage avec le règne animal, qui est le centre qui se trouve dans la région de l'estomac, qui nous met en contact avec tout ce monde astral. Et lorsque l'on croit capter des choses par la tête, en fait, on le capte par ce plexus qui renverse l'image dans la tête et les informations dans le cerveau. Alors qu'on doit fermer la porte à notre corps émotionnel, développer l'énergie du cœur, de la compassion, et éveiller les centres spirituels de la tête. C'est ça le Raja Yoga. Donc on voit qu'à tous les niveaux, il n'y a pas lieu d'amalgamer l'ésotérisme avec le New Age, le spiritisme ou les anciens cultes de médium. Hein. Ce sont vraiment deux voies, deux choses différentes.
On dit que dans la vie, il y a trois voies, trois sentiers possibles. La voie ésotérique, la voie mystique, la voie scientifique aussi. David, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que sont ces trois voies? Puis après, je suppose qu'on entrera dans la voie ésotérique.
Ces trois voies sont reliées aux trois aspects. On pourrait dire aussi la monade, la dyade, la triade. Aux trois aspects principaux, archétypaux, dont on a parlé en début d'émission, une sorte de trinité. Il y a l'aspect, le premier aspect, l'aspect volonté, puissance, on pourrait dire l'aspect du Père. Il y a le deuxième aspect, l'aspect de la conscience, de l'amour sagesse, en langage chrétien, ça serait le Fils. Et la troisième voie, l'aspect de l'intelligence liée à la nature, liée à la connaissance, à la mère du monde. Si on prend les scientifiques, on peut dire qu'ils essayent de comprendre la nature de la mer du monde. C'est-à-dire la nature de la mer du monde, c'est presque redondant. La mer du monde s'exprime dans la nature. On essaie de comprendre donc les lois naturelles, ce qui fonde le naturel, les principes, les forces. Et on étudie et on recherche ça. Et on comprend l'homme aussi comme une part intégrante de cette nature, au même titre que les animaux, les végétaux, les minéraux. Et là, on n'a pas encore reconnu des évolutions supérieures à l'homme. Je pense que ça ne serait tardé, mais voilà, on essaie de comprendre en tout cas l'homme et comprendre sa place dans la nature et ce qu'il constitue.
Ça, après, c'est la voie scientifique, ça. Voilà,
c'est une façon de comprendre et par la recherche scientifique, l'investigation et la technologie scientifique. Et je dirais l'ascèse du scientifique, c'est la concentration, c'est une forme de méditation qu'il exerce sur sa recherche. Le scientifique médite à sa manière, même s'il croise pas les jambes, qui ferme pas les yeux et qui met pas ses signes en forme, ses doigts en forme de mudra, il fait une forme de concentration et il exerce sa pensée à monter au fur et à mesure pour retrouver les arcanes de la pensée quelque part. Hein. Quelque part, on pourrait dire qu'il cherche à dévoiler les mystères de la nature et il se dirige vers ce qu'on appelle le mental universel. On suit une voie. Et ça, fondamentalement, on a une monade, une nature ultime qui est reliée à un des trois aspects. Peu importe même notre rayon d'âme, on est fondamentalement relié à l'aspect de la mère, à l'aspect du fils ou à l'aspect du père, on pourrait dire. Donc ça, c'est la voie scientifique.
Alors
On peut dire que la philosophie, la psychologie aussi, les sciences humaines participent de cette compréhension. Ça forme un tout. Après, il y a la voie mystique.
elle serait plutôt liée au deuxième aspect.
Voilà, à l'aspect sensibilité en nous. C'est pas du tout les mêmes contraires, on les a même opposés, peut-être parfois trop. Je pense que ces voies sont complémentaires, même si on en suit une. Et en suivant cette voie, on va intégrer quelque part un petit peu des deux autres. On a une pointe de triangle. Mais la pointe du triangle pour le mystique, c'est le fils, c'est le deuxième aspect, l'aspect amour, sagesse. Alors amour, on pense, par exemple, le christianisme est une voie d'amour, le bouddhisme est une voie de sagesse. Il y a un peu des différences, mais en gros, c'est une voie de la conscience. Et là, il y a des voies plus dévotionnelles ou plus sagesse, mais en fait, par une forme d'élévation de notre sensibilité, on essaye d'atteindre la nature amour ou la nature aimante ou la nature sage de Dieu. Mais on suit donc une voie de conscience avec une mystique. C'est une voie mystique, donc c'est une voie intérieure. Et de la même façon que le scientifique rend service au monde par ses découvertes, par toutes ces choses-là, en général, la voie des œuvres. Quand on voit un chrétien nourrir les pauvres, et ben c'est sa voie à lui. C'est comme ça que le chrétien ou le musulman, ou peu importe,
Se laisser
se
passer
rend
son,
utile.
laisser parler son cœur.
Voilà. Et aider son prochain.
Agir en
Et
fonction de son cœur, alors.
voilà. Essayer de vivre en fonction d'une éthique, c'est la voie du mystique. Alors c'est pour ça que la médiumnité, c'est une voie inférieure de mysticisme. C'est du mysticisme inférieur. Tous les grands mystiques, Saint Jean de la Croix et autres, n'étaient pas des médiums. Donc ça aussi, ça devrait alerter les gens qui suivent les enseignements New Age, que même les grands saints, les grands mystiques d'Orient et d'Occident n'étaient pas des médiums. Donc voilà, on suit cette voie-là. Et la voie ésotérique, c'est une voie où on cherche à atteindre la volonté. On cherche à rejoindre le Père. Donc il y a une identification au Père, à la volonté de Dieu. Et l'occultiste essaye de comprendre la volonté de Dieu, pas à travers une démarche scientifique, pas à travers une fusion mystique, il essaye de s'identifier à cette volonté et au fur et à mesure d'exercer une ascèse, une maîtrise sur lui, par la voie de l'ascèse méditative. Mais après aussi le but de l'occultiste, c'est de maîtriser, par la magie notamment, et par des emplois de mantras ou autres, des mots de pouvoir, de certains outils, surtout par sa pensée, de maîtriser le monde des énergies. Donc on peut parfois rapprocher l'occultiste du scientifique, mais ça reste deux voies. Et je dirais que les scientifiques ne devraient pas, sous prétexte que ce n'est pas découvert, nier la réalité de l'ésotérisme. Et les ésotéristes ne devraient pas absolument essayer de devenir scientifiques ou de faire en sorte que leurs pensées soient prouvées par la science. Ce sont deux voies différentes. Par la recherche métaphysique, on n'a pas du tout les mêmes moyens. Et on n'a pas les mêmes buts qu'une recherche scientifique, par exemple. Donc il faut suivre sa voie, il faut comprendre qui l'on est. Et la voie ésotérique, profondément, c'est une voie assez étroite, quelque part, hein, en tant que telle. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'intéresser à l'ésotérisme, mais ils peuvent s'y intéresser, mais avec une tournure d'esprit scientifique, ou alors avec une tournure d'esprit mystique. Certains qui sont surtout portés vers la sagesse, qui peuvent être attirés vers l'ésotérisme aussi. Donc c'est pas aussi clivant que cela,
Oui,
mais
on n'est pas dans la case 1 ou 2 ou 3, c'est
voilà,
plutôt de grandes tendances.
c'est des grandes
Mais on
tendances.
a le droit d'ouvrir ses œillères et d'aller un petit peu brouter dans le champ du voisin.
On le fait en tout cas, parce que si on part du principe que chaque voie contient les trois, dans chaque voie, bah, même si on est mystique, par exemple, il y a une part d'étude, y a une part vraiment de mysticisme, de contemplation, de prière et tout ça. Et il y a une forme d'ascèse, de maîtrise de soi, d'efforts intérieurs aussi. Donc on a à chaque fois les trois aspects dans les trois voies. Mais on a quand même une direction donnée, et c'est lié, dit l'ésotérisme, aux natures des gens, aux natures profondes. Et on a aussi même des philosophies qui sont reliées à ces natures-là. Regardez par exemple Nietzsche. A développé une philosophie sur la volonté de puissance. C'est évident qu'il était relié à cette première voie. C'est une philosophie presque vitaliste. C'est une philosophie qui est axée sur le principe de la vie, de la volonté de puissance, qui est présente partout, qui est présente en nous, qu'on doit laisser s'exprimer. C'est une philosophie différente de celle de Spinoza, par exemple, qui est une philosophie beaucoup plus sagesse, sur l'immanence, sur le rapport à la nature, voilà, il y a vraiment plein de formes de philosophie aussi qui révèlent ces principes-là. Et ben, le simple fait aussi de les nommer, c'est le propre de l'ésotérisme, de dire, ben voilà, il y a la voie ésotérique pure proprement dit, mais il y a aussi la voie mystique, il y a la voie scientifique, et ces voies sont liées aux trois archétypes fondamentaux.
Alors, tout de même, pour être un ésotériste, il faut développer un certain nombre de qualités. Moi, de ce que tu as dit, je dirais le discernement, la discipline, l'humilité aussi, parce qu'on voit qu'on est très peu de choses en face de l'univers.
Oh, je crois que ça, l'humilité, c'est vraiment, ça peut être nécessaire.
C'est pour tout le monde.
Nécessaire à tout le monde. Je dirais aussi le discernement. Bah, le discernement, par exemple, il est vraiment fondamental. Il permet une chose, c'est se libérer de ce qu'on appelle les mirages, c'est-à-dire justement, tout ce qui est imaginaire, qui est propre, qui est très répandu dans le mouvement New Age, justement, le mirage, c'est tout ce qu'on croit être réel, mais qui est le fruit d'un imaginaire. Eh bien, ça,
C'est le film qu'on se joue, quoi.
Voilà, et c'est toutes les croyances complètement infondées. Et je pense que ce n'est pas le cas de la philosophie ésotérique, qui a une logique interne, qui a vraiment une subtilité, une profondeur. Mais par le discernement, on peut justement se libérer et on doit discerner entre le vrai et le faux. Donc le discernement, c'est quelque chose d'important pour se libérer de son imaginaire émotionnel. Il y a la discipline de vie de tous les jours. Alors c'est en général, on commence par ça aussi. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à sa discipline de vie à plein de niveaux. On fait du sport, on commence à faire du tai chi, on fait un travail sur soi pour bouger ses énergies. Ça, c'est l'aspect physique. Il y a le discernement et il y a le choix des études aussi. Ce qu'on va étudier, c'est très important. La matière spirituelle, c'est important de choisir une voie sérieuse, une voie traditionnelle.
C'est une voie mentale, beaucoup une voie mentale.
À ce niveau-là, oui, là, ça c'est pour, je dirais, parce que j'essaie de passer dans les plans. Le plan physique, c'est la discipline. Le plan émotionnel, bah, c'est le discernement. Le plan mental, proprement dit, c'est de se nourrir avec des vrais enseignements. Donc moi, je dis souvent aux gens, allez, si vous êtes mystique, allez vers des vrais enseignements mystiques, vers une gnose chrétienne, par exemple, vers un islam illuminé, vers une kabbale, mais allez vers des voies vraiment sérieuses, ou la maçonnerie, ou vraiment les voies ésotériques, comme les ouvrages de Madame Blavatsky ou autres, mais voilà, de choisir une bonne nourriture mentale. Et puis après, les pratiques doivent aussi ne pas développer les facultés psychiques inférieures, on en a parlé, et ça c'est des pratiques qui partent du mental pour éveiller le centre du front et développer les capacités supérieures pour arriver à l'intuition. Donc une vraie pratique méditative. Si on suit une méditation de type mystique, donc dévotionnel, on a ça dans l'hindouisme, dans le christianisme et autres, à ce moment-là, il faut penser à s'élever. Et le problème du mystique, c'est que il a tendance à être dévoué envers une divinité extérieure, ou celui qu'il représente comme un dieu, il y a des dévots de Sai Baba, par exemple, mais au fur et à mesure, il doit s'élever et comprendre que son objet d'adoration se trouve en lui, et faire cesser la dualité. Il faut toujours penser, si on est mystique, et si on prie beaucoup, que c'est son Dieu intérieur que l'on prie. Et si on est scientifique, bah, on suit une voie de concentration qui peut mener à des états méditatifs, comme Einstein, pour trouver cette formule, il a dû rentrer dans le monde de l'intuition. Donc on est obligé quelque part d'avoir une ascèse spirituelle aussi, et le service, ça reste aussi fondamental. On a parlé du service pour les scientifiques, la voie des œuvres, le service pour les mystiques, et ben les ésotéristes, si on est ésotériste, on doit offrir un service, peut-être donner des cours, peut-être apprendre la méditation, peut-être peu importe, mais trouver une voie de service qui corresponde à, je parlais des francs-maçons, ils l'ont trouvé. Donc voilà, on a essayé de résumer un petit peu ce qui était commun à aux vraies traditions ésotériques.
En un mot, est-ce qu'on pourrait dire quelque chose, juste une phrase pour sur l'ésotérisme, en une phrase simplement?
Je dirais que même si on ne se sent pas ésotérique, on peut choisir à ce moment-là, par la philosophie antique par exemple, ou par l'ésotérisme moderne, ou par des mystiques ésotériques, on peut choisir de réfléchir et de penser à des principes abstraits. Là, on commence à faire une forme d'ésotérisme. En tout cas, au niveau de la pensée, et on raffine sa pensée, et je pense qu'on peut commencer à illuminer un peu sa vie et concevoir qu'il y a des principes qui peuvent nous guider.
Bien, cette émission s'achève. Merci beaucoup, David.
Merci Dominique, merci à tous.
Bonne soirée sur IDFM.